Annie Ernaux a passé son enfance et sa jeunesse à Yvetot, en Normandie. Agrégée de lettres modernes, elle a été professeure au Centre national d'enseignement à distance. Elle vit dans le Val d'Oise, à Cergy. Ça, c'est la petite biographie que l'on trouve au début de tous ses romans, en format poche.
C'est le point de vue roman, peut-être traditionnel, que j'ai refusé. J'ai voulu d'abord, faire une... Bon, l'écriture plate dont vous avez parlé, et l'écriture du constat. C'est-à-dire, je ne voulais pas commenter. Ça rejoint enfin, des préoccupations très importantes. Commenter, par exemple, eh bien, mon grand-père qui ne savait pas lire non plus, et qui a fini sa vie à l'hôpital, eh bien, mon père allait lui porter... C'était pas la peine de lui porter des choses culturelles, puisqu'il ne savait pas lire.
Premier livre d'Annie Ernaux que j'ai lu, c'était « Une femme ». Page 22. C'est une entreprise difficile. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps. Elle était violente, c'était une femme qui brûlait tout, et d'évoquer en désordre des scènes où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que, depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi. La femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service de gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire, de plus juste, se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité. Mais je souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature. Page 43. En fait, je passe beaucoup de temps à m'interroger sur l'ordre des choses à dire, le choix et l'agencement des mots, comme s'il existait un ordre idéal, seul capable de rendre une vérité concernant ma mère. Mais je ne sais pas en quoi elle consiste, et rien d'autre ne compte pour moi, au moment où j'écris, que la découverte de cet ordre-là. Annie Ernaux semble dire que pour elle, et c'était le cas pour moi aussi, elle n'écrit pas sur quelque chose qu'elle a compris, mais sur quelque chose qu'elle aimerait comprendre. Elle écrit pour comprendre.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin.
Un jour, une fille que je venais de rencontrer m'a emmenée à Yvetot. Et grâce à Google Images et à un article dans Le Monde, je crois, on a retrouvé l'épicerie d'Annie Ernaux. On s'est prise en photo devant.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris?
Nancy Houston, vous avez écrit à propos de l'événement paru il y a quelques années, Annie Ernaux devrait figurer dans le cursus des lectures obligatoires de tous les collèges français. Vous vous souvenez avoir écrit cette phrase?
Tout à fait.
Nancy Houston, elle dit carrément qu'on devrait étudier à l'école les romans d'Annie Ernaux. Ça se pose là. Le deuxième roman d'Annie Ernaux que j'ai lu, c'était L'événement. Annie, elle dit, un événement, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est plus pareil avant et après. Page 44. Ah non, page 41. Un après-midi, je suis partie de la cité avec l'intention de découvrir un médecin qui accepterait de m'avorter. Cet être-là devait bien exister quelque part. Rouen était devenu une forêt de pierres grises. Il faisait un soleil pâle de novembre. J'avançais avec, dans la tête, le refrain d'une chanson qu'on entendait sans arrêt. Dominique Nick Nick, chantée par une religieuse dominicaine qui s'accompagnait à la guitare, Sœur Sourire. Les paroles étaient édifiantes et naïves. Sœur Sourire ne connaissait pas le sens de niquer, mais la musique joyeuse, joyeuse et dansante. Cela me donnait du courage dans ma recherche. Je suis arrivée place Saint-Marc, des étals de marché étaient empilés. Je voyais au fond le magasin de meubles Froger, où j'étais venue petite fille avec ma mère pour acheter une armoire. Je ne regardais même plus les plaques sur les portes, j'étais dans une errance sans but. Dans Le Monde, il y a une dizaine d'années, j'ai appris le suicide de Sœur Sourire. Le journal racontait qu'après le succès immense de Dominique, elle avait connu toutes sortes de déboires avec son ordre religieux, l'avait quitté, s'était mise à vivre avec une femme. Peu à peu, elle avait cessé de chanter, elle était tombée dans l'oubli, elle buvait. Ce résumé m'a bouleversée. Il m'a semblé que c'était la femme en rupture de la société. La défroquée, plus ou moins lesbienne, alcoolique. Celle qu'elle ne se savait pas devenir un jour, qui m'avait accompagnée dans les rues de Martinville quand j'étais seule et perdue. Nous avions été unis par une déréliction simplement décalée dans le temps. Et cet après-midi-là, j'avais dû mon courage de vivre à la chanson d'une femme qui, plus tard, se perdrait jusqu'à en mourir. J'ai violemment espéré qu'elle ait tout de suite... J'ai violemment espéré qu'elle ait tout de même été un peu heureuse et que les soirs de whisky... Connaissant maintenant le sens du mot, elle ait pensé que les bonnes sœurs, finalement, elle les avait bien niquées. Sœur Sourire fait partie de ces femmes jamais rencontrées, mortes ou vivantes, réelles ou non, avec qui, malgré toutes les différences, je me sens quelque chose de commun. Elles forment en moi une chaîne invisible où se côtoient des artistes, des écrivaines, des héroïnes de romans et des femmes de mon enfance. J'ai l'impression que mon histoire est en elles.
Sœur Sourire est à Paris. Elle est venue nous rendre visite dans notre studio et nous sommes très heureux de vous accueillir, Sœur Sourire. Mais j'allais vous dire tout d'abord, souriez. Vous avez le trac ?
J'ai pas le trac, je ne souris rarement, mais je ris souvent.
C'est alors ce nom de bataille, c'est vous qui l'avez choisi ?
Non, c'est une firme de disques qui me l'a donné. Et cela concerne surtout la première chanson que j'ai composée vers 1962-60.
Dites-moi, Sœur Sourire, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu votre histoire, parce que vous étiez religieuse,
oui.
Et puis vous ne l'êtes plus, et une religieuse qui abandonne et qui chante, c'est peu courant.
Ah oui, on dit que c'est défroqué, hein.
Alors racontez-moi.
Mais je suis toujours religieuse, imaginez, seulement je suis religieuse laïque.
Oui.
J'ai fait un vœu de célibat consacré, à vie enfin, dans l'ordre de Saint-Dominique, donc je suis dominicaine laïque. Mais je ne porte plus l'habit, et je ne porterai plus l'habit parce que je me suis rendu compte que l'habit était une sorte d'écran entre les personnes et moi. Alors, il n'y a pas moyen de communiquer avec des gens quand il y a un écran, vous voyez. Ou leur dire quelque chose qu'on veut dire quand il y a un écran.
Mais alors, vous êtes quand même religieuse.
Oui. Et je prie avec mon amie, enfin ma consoeur qui n'est pas derrière vous.
Parce que vous êtes deux, je crois.
Nous sommes une mini-communauté de deux pour l'instant, oui.
Oui.
En espérant qu'on soit davantage, peut-être plus tard, je ne sais pas.
Dites-moi alors.
Première Hit Parade américain 1963.
Sœur Sourire, mais elle était enterrée ici, c'est pas possible. Elle était belge.
Bah oui. Hein.
Jeanne Descaires. des femmes là-dedans. J'ai vu voler son âme à travers le
nuage. Voilà, c'était par la sœur sourire.
Un moustique tic-tic-tic s'en va chantonnant. Un moustique tic-tic-tic s'en va promenant.
Un moustique tic-tic-tic s'en va chantonnant. Un moustique tic-tic-tic s'en va promenant.
Puis il s'en va chatouiller là-bas dans le pré. La jument et son poulain qui grignotent un brin.
Je ne vais pas vous parler de tous les livres d'Annie Ernaux que j'ai lus. Je peux vous parler d'un que je n'ai pas lu. Et je le confesse à Sœur Sourire, je n'ai pas lu Les années d'Annie Ernaux. Mais en ce moment sur France Culture, il y a un feuilleton de fiction sur les années d'Annie Ernaux.
Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin.
Avec Jacques Gamblin. Et moi, je suis amoureuse de Jacques Gamblin.
Merci réciproquement.
Sinon, en écoutant le feuilleton Les années d'Annie Ernaux, je me suis rendu compte à quel point une phrase n'existe pas en dehors de la manière dont elle est lue. Une phrase est toujours lue d'une certaine manière, même lorsqu'on lit dans notre tête. Il y a toujours un timbre, un rythme, une intonation. En musique, on a des moyens pour guider l'interprétation, avec des crescendo, des décrescendo, des signes sur la partition pour nous informer de comment il serait bien de l'interpréter. En littérature, c'est plus compliqué. Je me souviens que quand j'écrivais, je me disais, j'espère vraiment qu'ils vont la lire de cette manière-là. Je me disais qu'il fallait que je trouve une manière d'écrire cette phrase pour que dans l'écriture, l'interprétation soit proposée. Que ce soit grâce à la ponctuation, à la longueur des mots. Il fallait que je trouve un moyen d'écrire la phrase pour qu'elle soit lue de la manière dont j'espérais qu'elle soit lue. Le compositeur de musique Eric Satie avait la particularité de noter l'interprétation avec des phrases. Comme par exemple, si j'ouvre la partition, sur une portée, on peut lire « Munissez-vous de clairvoyance ». Sur une autre, on peut encore lire « Seul pendant un instant ». Je continue, il écrit au-dessus de « Mi fa sol la si do mi do », il écrit « Très perdu, il faut le jouer très perdu ». En dessous, il écrit « Portez cela plus loin ». Je me suis dit, finalement, avec cette idée de voix, on dit d'un écrivain qu'il a une voix ou qu'il n'en a pas, que peut-être avoir une voix, c'est trouver le moyen d'écrire une phrase et qu'elle contienne aussi la manière dont elle doit être lue. Que dans l'écriture, elle contienne aussi la manière dont elle doit être lue, qu'il serait préférable qu'elle soit lue.
C'était le trou, au fond, autour duquel je tournais sans vouloir jamais y entrer. Parce que c'est un événement, j'emploie à dessein le terme événement, parce qu'un événement, c'est ce qui fait qu'on n'est plus jamais pareil avant et après. Donc, ce qui s'est passé cet été-là, c'est effectivement quelque chose dont plus tard j'écrirai qu'on ne revient pas. On n'en revient pas, comme on dit familièrement, je n'en suis pas revenue. Et c'est que assez...
Le dernier livre d'Annie Ernaux que j'ai lu, c'est son dernier livre paru, c'est « Mémoire de fille ». première page. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres. Leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette. Englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d'un seul autre. Ce qu'ils pensaient être s'évanouit. Ils se dissolvent et regardent leur reflet agir, obéir, emportés dans le cours inconnu des choses. Ils sont toujours en retard sur la volonté de l'autre. Elle a toujours un temps d'avance. Il ne la rattrape jamais. Quand on demande à Aniranou si elle raconte sa vie, elle répond « Je raconte la vie ». Cette question, on la pose rarement aux hommes qui écrivent sur des événements qu'ils ont vécus. En général, quand un homme raconte sa vie, dans un roman, il parle de la condition humaine. Mais une femme, quand elle utilise sa vie comme matière littéraire, elle raconte sa vie. La femme n'est pas politique. On nous le dit souvent.
L'écriture, c'est une expérience totale. Et il y a dedans toute mon histoire. Et dans cette histoire, il y a le fait que je suis une femme. Ça, c'était la grande affaire des années 70. On écrit avec son corps. Et donc, on écrit avec le corps féminin, avec la jouissance féminine. Là, je m'inscris en faux là. Sur ce point-là, j'ai jamais eu l'impression d'écrire avec ma peau, avec mes seins, avec mon utérus, mais d'écrire avec ma tête. Voilà. Donc, c'est avec ce que ça suppose de mémoire, avec ça suppose de volonté de comprendre, de travail avec les mots, avec tout ce que ça suppose écrire vraiment. Et là, je crois que c'est qu'il n'y a pas de différence entre un écrivain homme et une écrivaine.
À la rentrée littéraire de septembre, je me suis rendu compte qu'on avait toutes et tous envoyé notre roman à Annie Ernaux et qu'elle avait répondu à tout le monde. Annie Ernaux, en septembre, elle reçoit tous les romans de la rentrée littéraire. Elle prend le temps de tous les lire, et elle envoie un petit mot, personnel et inspiré, à tous les auteurs et toutes les autrices. Alors, j'ai imaginé Annie Ernaux, dans sa maison, lire tous les romans et prendre le temps de nous répondre. J'ai eu envie de lui écrire pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle perde trop de temps à nous répondre, qu'il fallait qu'elle termine l'écriture de son prochain roman, parce que nous, on l'attend terriblement.